crois que vous commencez à connaître les titres préférés de Marco Delpierre. Vous êtes sur France Culture. Dans quelques instants, on va évoquer ce bras de fer qui s'installe. Je vous dis le titre des Échos au sujet des retraites. Comme vous le savez, les syndicats ont mobilisé massivement jeudi avec 806 000 manifestants dans toute la France, des grèves très suivies dans le secteur public. On en parle dans quelques instants avec Christophe Aguiton, il est chercheur en sciences sociales, auteur notamment de La gauche du 21e siècle aux éditions de La Découverte et militant d'Attaque. En attendant, il est 7h30 sur France Culture et je vous souhaite un très bon réveil. Et voici le journal de Margot Delpierre. Bonjour Margot.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Paris réussit selon les syndicats. Au moins 800 000 personnes ont manifesté hier en France contre la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Le ministère de l'Intérieur a compté 65 000 participants à Paris, 250 000 selon la CGT. Les manifestations se sont bien passées, a déclaré le Premier ministre Édouard Philippe, malgré des affrontements entre police et Black Blocs dans la capitale. Plusieurs vitrines ont été brisées, une remorque de chantier incendié. Hier soir, 71 personnes étaient en garde à vue. Quelques heures ont eu lieu aussi à Dijon. Près de 9000 personnes sont descendues dans la rue, globalement dans le calme, mais inquiètes à l'idée de l'instauration d'un régime universel à points. Dans ce cortège, il y avait Sébastien, infirmier depuis 20 ans. Il dénonce un projet mauvais pour tout le monde.
Tout le monde sait qu'on va ramasser, mais y compris le privé, j'oublie de le dire, hein, souvent c'est les privilégiés du public, mais le privé il va ramasser comme nous, hein, il va prendre 10 à 15% dans la gueule. Je suis désolé de parler comme ça, mais voilà. À la rigueur, je suis d'accord avec M. Macron, un seul système de retraite, celui des sénateurs. Comme ça, tout le monde sera content, je pense que ça ira très bien. Parce que voilà, c'est les réformes, c'est que pour les petits, que pour ceux qui gagnent le moins, puis les autres, on garde nos avantages, quoi. Donc ça commence sérieusement à gonfler. Et je pense que c'est là ce qu'il va falloir arriver à faire une grève générale. Il faut bloquer le pays. Il n'y a que ça qu'ils comprennent. Ils comprennent rien d'autre. C'est soi-disant, on écoute, on vous entend. Rien. C'est de la poudre aux yeux.
Propos recueillis par nos confrères de France Bleu Bourgogne. Revenons à Paris, où de nombreux politiques de gauche ont aussi défilé. Le reportage de Rosalie Lafarge.
Si la gauche est unie dans sa volonté de faire plier le gouvernement, elle n'use pas des mêmes arguments d'un parti à l'autre.
Nous voulons une réforme juste. C'est simple à comprendre.
Le chef de file des socialistes, Olivier Faure.
Nous ne sommes pas opposés à l'idée d'avancer. Mais encore faudrait-il qu'on avance et non pas nous opérions de nouvelles régressions, ce qui se profile avec un gouvernement qui donne le sentiment de ne pas savoir jour après jour où il va.
Chez les communistes, en revanche, on a quand même bien l'impression que le gouvernement sait où il va et c'est bien ça le problème pour Fabien Roussel, le secrétaire national du PCF.
Ce gouvernement a décidé de jouer le bras de fer avec l'ensemble du pays, l'ensemble du monde du travail. C'est lui qui provoque aujourd'hui le chaos. C'est lui qui a la balle dans son camp, qui l'ouvre de vraies négociations.
Sauf que côté insoumis, on n'a pas franchement le sentiment que l'exécutif est vraiment prêt à négocier et on espère plutôt le faire reculer, Mathilde Panot, députée France Insoumise.
Je pense que c'est très important qu'on soit le front le plus uni possible contre cette réforme parce que si nous voulons avoir une chance de faire battre en retraite Macron et qu'il abandonne cette réforme, il faut avoir ce rapport de force et de nombre.
Mais reculer pour reculer, ce n'est pas l'objectif des Verts, emmenés par Yannick Jadot.
Moi, je ne demande pas au gouvernement de reculer par principe. Moi, je demande au gouvernement de s'attaquer au vrai problème du système des retraites, les inégalités, la pénibilité et tous ces éléments aujourd'hui qui ne sont pas pris en compte.
Jouant la carte de l'apaisement, le gouvernement l'assure, il y a encore des marges de négociation sur la réforme des retraites. Dans la rue, la gauche a, elle, bien du mal à y croire.
Et maintenant, à la SNCF, la grève continue. Aujourd'hui, 90% des TGV sont annulés. Des perturbations encore à la RATP avec 10 lignes de métro fermées sur 16. Air France a de son côté annoncé l'annulation de 30% de ses vols intérieurs. Le syndicat de professeurs SNES-FSU veut ancrer le mouvement dans la durée et appelle à une nouvelle grève mardi prochain. L'intersyndicale se réunira ce matin à 9h pour décider de la suite. En Syrie, la crise est notamment économique. Le taux de change de la livre syrienne est tombé cette semaine à son plus bas niveau de l'histoire sur le marché noir par rapport au cours officiel. Mardi soir, il était de 1000 livres pour 1 dollar. Pour comprendre cette dégringolade, il faut regarder chez son voisin libanais qui souffre, lui aussi. À Beyrouth, la correspondance d'Aurélien Colli.
Depuis le début de la guerre civile et les sanctions occidentales, le Liban est le poumon de l'économie syrienne. Les milieux d'affaires et les importateurs syriens dépendent de son système bancaire pour accéder au marché international, se procurer des devises, en premier lieu des dollars, et pour poursuivre leurs activités. Idem pour les millions de réfugiés ou d'expatriés syriens qui envoient régulièrement de l'argent vers leur pays natal. Tout passe par le Liban et par ses banques où 20% des dépôts appartiennent aussi à des Syriens. Mais le poumon est en train de s'asphyxier car le Liban s'enfonce dans la crise. Chaque jour quasiment, ses banques limitent un peu plus l'accès au dollar, limitent sur les transferts, les virements, les retraits, uniquement au guichet car les distributeurs sont à sec et seulement quelques centaines de dollars par semaine. Résultat, l'oxygène se raréfie aussi de l'autre côté de la frontière. La livre syrienne est tombée à un niveau historiquement bas mardi soir, 1000 livres pour un dollar au marché noir. L'inflation atteint déjà 20 à 30% sur les produits de base largement importés et de nouvelles pénuries s'annoncent alors que rien n'indique que la situation s'améliore au Liban.
Et face à cette crise, des centaines de Philippins se sont rués hier à l'ambassade des Philippines à Beyrouth. Ils voulaient s'inscrire à une campagne de rapatriement proposée par leur pays. Météo France a placé les Ardennes en vigilance orange pour des risques de neige et verglas. Le temps sera gris et pluvieux sur une bonne moitié nord du pays. Le ciel voilé dans l'est et le sud. Il devrait faire au maximum 4 degrés cet après-midi à Strasbourg, 7 à Lille, 8 à Bordeaux et 14 degrés à Nice, Guillaume.
Eh bien, merci Margot Delpierre. Il est 7h35 sur France Culture. La revue de presse internationale. Bonjour Camille Magnin.
Bonjour.
Nous sommes ce matin en Algérie où vont se dérouler les dernières grandes manifestations du vendredi avant l'élection présidentielle le 12 décembre.
Le 12 décembre, ce sera jeudi prochain et nous sommes donc dans la dernière semaine d'une non-campagne électorale à cacher, selon ce qu'en dit l'édito du quotidien Liberté Algérie. Les 5 candidats, tous issus de l'ancien régime, alors que le peuple réclame depuis des mois une vraie rupture, ces 5 candidats ont pu mesurer au cours de leurs déplacements à travers le pays ces derniers mois l'étendue et l'ancrage populaire du rejet dont ils sont l'objet, selon ce qu'écrit donc Saïd Cherki. Le terrain est irrémédiablement hostile pour le pouvoir militaire de transition qui a pourtant voulu faire de ce scrutin le point d'orgue de sa feuille de route politique. Et ceux que l'on continue à entendre le plus, eh bien, ce sont les opposants à la présidentielle, ceux qui appellent à la boycotter. Eux seront à nouveau dans la rue ce vendredi, comme chaque vendredi depuis plus de 8 mois, galvanisés par la vulgarité, le terme était hier en une d'El Watan, que leur a opposé en début de semaine le ministre de l'Intérieur algérien Salah Eddine Darmoun. « Ceux qui sont contre l'élection, a-t-il déclaré, sont des pseudo-algériens, des traîtres, des homosexuels et des mercenaires à la solde du colonialisme français. » Le ministre l'a dit devant le Sénat algérien et Tayeb Belghish pour El Watan donc, note que jamais depuis l'indépendance, un haut responsable de l'État n'avait à ce point déversé des insanités sur le peuple algérien. Salah Eddine Darmoun a-t-il agi sur instruction? Pensait-il faire peur aux Algériens pour affaiblir la mobilisation du 42e vendredi de la colère aujourd'hui? Si c'est le cas, eh bien c'est raté. Ce déchaînement de vulgarité n'aura fait que jeter de l'huile sur le feu, illustrer la perte de contrôle du pouvoir et pousser les manifestants à lui répondre dans la rue comme sur les réseaux sociaux où le hashtag « Nous sommes tous des mercenaires pervers et gays » est devenu viral depuis mardi, tout comme les appels à venir toujours plus nombreux à la « Gay Pride » d'aujourd'hui.
La fin de campagne verse donc dans le caniveau du côté des autorités. C'est d'ailleurs ce qu'en retient le célèbre dessinateur de presse Dilem.
Et dans sa dernière livraison à Liberté Algérie, Dilem dessine un couple d'Algériens dans la rue qui passe devant une bouche d'égout ouverte. Il y a des micros posés devant et l'homme du couple dit « Tiens, encore une conférence de presse du ministre de l'Intérieur ». Voilà donc comment, c'est le titre du dessin, l'actualité s'emballe à une semaine de la présidentielle. Et cette fin de campagne, c'est ce qu'on lira sur le site Tout sur l'Algérie, elle se noie aussi dans les zones d'ombre d'une autre présidentielle, celle qui n'a pas eu lieu au mois d'avril, empêchée par le soulèvement populaire qui avait démarré donc au printemps, et qui, cette élection, devait imposer un 5e mandat du président grabataire Abdelaziz Bouteflika. 15 personnes, dont 2 anciens premiers ministres, sont jugées pour corruption depuis mercredi pour avoir monté et couvert un système de financement occulte de la campagne Bouteflika. Les premières révélations sont enveloppées du parfum nauséabond de la corruption, la vraie, celle qui met en cause directement directement le système Bouteflika et ses pratiques quasi mafieuses, d'après ce qu'en décrit TSA. En organisant ce grand déballage judiciaire à une semaine donc du scrutin du 12 décembre, le pouvoir actuel tente-t-il de faire diversion, de prendre ses distances aussi avec l'ère Bouteflika? Sans doute, estime Saïd Cherki pour Liberté Algérie, car finalement, quoi de mieux qu'un procès spectaculaire ou un scandale retentissant pour faire écran de fumée autour d'une mauvaise passe politique.
Et avant d'évoquer la mobilisation contre la réforme des retraites en France avec notre invité Christophe Aguiton dans quelques instants, voyons ce qu'en dit la presse européenne, Camille.
Elle en dit que la République ne marche plus. C'est le titre d'une analyse signée Michaela Wieger pour la Frankfurter Allgemeine Zeitung. La France est quasiment paralysée depuis hier par la protestation contre la réforme à venir des retraites. Les intentions du gouvernement français sont encore nébuleuses, reconnaît la correspondante à Paris du quotidien allemand. Mais l'opposition d'une bonne majorité des Français, elle, est déjà claire. Car il faut dire que depuis un an, notre pays ne connaît pas de répit dans le sens d'une forme d'intranquillité sociale permanente qui s'est installée. Et ça va bien au-delà des gilets jaunes ou des black blocs. La journée d'hier a montré un renforcement notable des rassemblements syndicaux que l'on disait dépassés ou condamnés à l'échec. Ce parfum que l'on sent dans l'air ambiant en France, c'est celui de la défiance générale contre Emmanuel Macron et son gouvernement. C'est ce que déclare une manifestante parisienne à Angélique Chrysafis du Guardian. La journaliste confirme que c'est bien tout le projet macroniste de transformation profonde du modèle social français qui est contesté. Chrysafis note d'ailleurs que beaucoup de slogans lus et entendus hier dans les cortèges concernaient la défense des services publics au moins autant que les retraites.
Et pour El País en Espagne, c'est bien Emmanuel Macron en personne qui est mis sous pression par le succès de la grève générale entamée hier.
En inscrivant leur mobilisation dans la durée, écrit Marc Bassett, les syndicats français tentent de réussir là où les gilets jaunes ont échoué, à savoir faire plier le président des patrons et du mépris de classe. Ils ont pour eux le nombre, ces millions de Français inquiets et concernés par ce sujet très concret des retraites. Mais le résultat final est loin d'être connu à l'avance. L'exécutif met en scène un président et un premier ministre calmes, décidés à aller au bout de leurs réformes, dans une démarche tout de même d'écoute et de concertation. La porte n'est donc pas fermée à des arrangements, ce que résume en ces termes Richard Verli dans les colonnes du Temps suisse. Sur le front social, Édouard Philippe doit déminer et bricoler. Ce juppéiste pur jus essaye surtout de ne pas tomber dans le piège du droit dans ses bottismes qui avait perdu son mentor en 1995. Ne pas croire que le mouvement va s'étioler de lui-même, ne pas sembler fermé au dialogue, imaginer des moyens d'organiser encore et toujours une forme de participation citoyenne à ce débat sur les retraites. Ironie du sort et de l'histoire, commente Richard Verli, Édouard Philippe, le disciple favori d'Alain Juppé, doit 24 ans après les grandes grèves de 1995 faire du Chirac. Avec toutefois une difficulté en plus, la profondeur des divisions et de l'antagonisme qu'on continue de susciter dans l'opinion française, un chef de l'État nommé Macron.
Donc j'en déduis que les Suisses connaissent le droit dans ses bottes, l'expression d'Alain Juppé.
Bien sûr, Richard Verli connaît tout de la politique.
Les plus jeunes ne doivent pas connaître le droit dans ses bottes qui, bien, s'est soldé quelques jours plus tard par un retrait du projet. Merci beaucoup Camille Magnard pour cette revue de presse internationale que l'on peut réentendre sur le site de France Culture, franceculture.fr.
Les matins de France Culture, 7h-9h, Guillaume Erner.
7h42 avec des titres de la presse, tous consacrés aujourd'hui à cette forte mobilisation sur les retraites. C'est le titre de La Croix. Des centaines de milliers de personnes ont manifesté hier en France pour peser sur la réforme des retraites envisagée par le gouvernement, tandis que l'Humanité évoque une colère, je cite, reconductible, un nombre de grévistes qui dépasse les prévisions. Christophe Aguiton, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur en sciences sociales, auteur notamment de La Gauche du 21e siècle aux éditions de La Découverte, militant d'attaque et fondateur de Sud. Vous étiez hier dans la manifestation. Qui avez-vous vu et est-ce que ça vous a rappelé des souvenirs?
Ah non, mais c'est sûr. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé hier, c'est la force du mouvement à son tout début. Quand on prend les référents historiques, tout le monde parle de 95, mais il y a eu aussi 2010 déjà sur les retraites sous Nicolas Sarkozy et puis il y a eu 2016 sous François Hollande avec la loi El Khomri, la loi de réforme du Code du Travail.
Et, dans et puis, il y a eu aussi 1953.
Bien sûr, et 68, si etc.
Déjà, sur sur la question des retraites.
Exactement. Et tous ces mouvements étaient marqués par une montée en puissance relativement lente. Hein. Le 95, on a tous parlé de la journée du 5 décembre, qui a été la grande journée, celle qui a fait plier Juppé d'une certaine façon, mais elle avait été précédée du 28 novembre, du 24 novembre, de toute une série de journées beaucoup plus petites, exactement comme en 2010, exactement comme en 2016. Là, démarré à quasi 1 million, compté par la police, plus bien sûr, du point de vue des syndicats, de manifestants, plus des grèves très très fortes, à la fois dans les transports, mais surtout dans l'invité surprise de la journée d'hier, qui sont les enseignants, qui sont mobilisés massivement. Ça montre qu'il y a quelque chose dans le pays qui est tout à fait explosif, et je pense que le gouvernement aurait tout à craindre à prendre cette affaire à la légère.
Quelque chose, quoi ? En l'occurrence,
je crois que se mêlent plusieurs choses. Évidemment, des gens qui défendent leur profession, la spécificité de ces professions, les cheminots, la RATP, mais aussi des risques majeurs pour leur futur et pour leur retraite. Hein. Les syndicats d'enseignants ont calculé que c'était entre 400 et 900 euros de perte par mois que les enseignants à la retraite auraient à subir si la réforme est mise en place. Mais c'est vrai pour l'État d'autres secteurs, hein, y compris ceux pour lesquels le gouvernement prétend construire cette réforme. Prenez le cas des femmes. Le gouvernement n'arrête pas de nous dire que le régime par point, c'est mieux pour elles. Mais quand on regarde les choses aujourd'hui, on calcule une retraite sur les 25 meilleures années. Or, on sait que c'est les femmes qui ont le plus souvent des carrières hachées parce qu'elles sont restées à la maison pendant 1 an ou 2 pour s'occuper des enfants, parce qu'elles ont travaillé à temps partiel, souvent contraint, parce que c'est le cas de beaucoup d'emplois dits féminins. Mais au moins, si vous calculez la retraite sur 25 ans, vous prenez les meilleures années. Si vous la prenez sur 42 années, 43 années, vous prenez le tout, y compris les périodes où vous êtes en arrêt parce que vous êtes en garde d'enfants, ou les périodes où vous êtes dans un travail précaire. Donc, il y a tout un collectif féministe qui a publié une tribune très récemment qui montre que les femmes vont perdre beaucoup à cette retraite. Et je pense que ce sentiment, il est assez général. Il touche la retraite, mais il touche un peu, comme vous l'avez dit dans votre revue de presse, les services publics, cette espèce d'impression que tout ça fout le camp et que le gouvernement prépare une casse généralisée à la fois du modèle de protection sociale et des services publics.
Mais oui, parce que la réforme des retraites, disait la revue de presse internationale, elle demeure assez nébuleuse. En tout cas, les contours ne sont pas encore suffisamment précis pour qu'on se fasse une opinion arrêtée, à moins que vous ne soyez pas d'accord avec cette assertion, Christophe Aguiton.
Il y a quand même des choses qu'on sait déjà, et c'est des choses assez inquiétantes. Pour vous donner simplement un chiffre, le gouvernement a une idée fixe, c'est qu'il ne faut pas dépasser 14% du PIB en dépenses pour nos retraites, en général. Hein, bon, et que donc, la réforme qu'il propose, de régime par points, permettra d'assurer sur les décennies à venir qu'on restera toujours à 14% du PIB. Mais ce que ne dit pas le gouvernement, c'est que, pour des raisons mécaniques, qui est l'arrivée, ce qui est déjà le cas des classes d'âge de ce qu'on appelle le baby-boom, hein, des années 50 à la retraite, et puis de ce qui va suivre dans les années 60, font que le nombre des plus de 60 ans, ou même des plus de 65 ans, c'est-à-dire ceux qui seront à la retraite bientôt, va augmenter de près de 30% en 30 ans. Ben, y a pas de miracle, hein, vous augmentez de 30% ceux qui vont toucher une retraite, alors que le gâteau, entre guillemets, n'est toujours, ou la part du gâteau n'est toujours que de 14%, ça veut dire que les retraités vont connaître une perte massive de leur pouvoir d'achat dans les décennies à venir.
Mais alors, comment, ça, on le sait déjà. Comment interprétez-vous dans ce cas-là la stratégie, ou en tout cas la politique du gouvernement, puisque ça fait 1 an malgré tout que la France connaît un certain nombre de protestations sociales. Je songe bien entendu aux chasubles jaunes qui
voilà, ont et été autres cheminots.
Voilà. Donc comment expliquer dans ces conditions que ce gouvernement se soit lancé dans une réforme qui apparaît pour le moins risquée aujourd'hui ?
Ça, je n'avais pas la réponse à cette question, mais c'est une bonne question. Hein. Bon, il y a deux choses étonnantes. C'est que le gouvernement s'entête sur cette réforme auquel il tient beaucoup. Il en fait même un marqueur de la réussite ou de l'échec de ce quinquennat. Mais en même temps, il se donne en rien les conditions pour apaiser les choses. Avoir laissé démarrer le 5 avec la puissance de cette journée, sans rien avoir dit de concret, hein, bon, et tout le monde le reconnaît, y compris ceux qui sont le plus favorables dans le monde syndical à cette réforme. Je pense à Laurent Berger, à la CFDT, qui était favorable à une réforme par point, à une retraite par point, pardon. Le fait qu'ils soient eux aussi dans la grève hier montre à quel point il y a un flou qui angoisse tout le monde, et il y a une espèce de peur générale, vraiment d'une remise en cause majeure du système de protection sociale français.
Ce qui est très étonnant, c'est que dans les commentaires, il est largement question d'une contestation de la politique gouvernementale, voire de la politique d'Emmanuel Macron, puisque son nom Absolument. Est cité. Et cependant, la gauche, Christophe Aguiton, dont vous connaissez bien l'histoire, ne semble pas aujourd'hui être dans une position particulièrement confortable. Comment expliquer ce paradoxe ?
Les choses sont assez simples. Si vous prenez les résultats aux dernières élections européennes, hein, qui est la dernière phase électorale que nous avons connue, de la gauche dans sa totalité, on est à 33%. Hein, donc c'est pas du tout une force négligeable, hein, c'est une force considérable, mais qui est complètement émiettée. Ceux qui s'en sont tirés le mieux aux européennes, c'est les Verts, Europe Écologie Les Verts, avec la liste de Yannick Jadot qui a fait 13%. Hein, bon.
Et oui, parce qu'il faut classer les Verts à l'intérieur de la gauche, ce qui peut être fait.
De fait, est une réalité. Ils étaient hier dans la rue, comme toutes les autres forces de gauche, et le dernier congrès des Verts montre que l'ancrage à gauche a été réaffirmé, hein, des Verts. Et donc c'est une donnée importante. Donc on a 33%, mais qui sont éclatés en 6 ou 7 listes, et dont aucune, à part un peu Europe Écologie Les Verts, mais sur un scrutin qui leur était plutôt favorable, aucun d'entre eux n'arrive vraiment à s'imposer. Donc on a cette situation d'une gauche qui reste forte dans le pays, mais qui est émiettée, à l'inverse de ce qui se passe à l'extrême droite, où le Front National n'est que à 22-23% si l'on suit les derniers sondages ou les résultats des européennes, mais sous une forme unie, d'une certaine façon. Donc là, c'est une différence majeure, ce qui fait que la voix du Front National, malheureusement, pèse plus que la voix dispersée de ces différents courants de la gauche et des écologistes.
Lequel Front National était, en tout cas le Rassemblement National, à l'appel de sa présidente Marine Le Pen, était présent, en tout cas devait ou pouvait être présent dans la manifestation hier. Là aussi, qu'est-ce que ça vous inspire, Christophe Aguillon?
Il y a un changement dans la politique de l'extrême droite. Si on se réfère à 95, qui était la dernière grande grève des services publics, le père de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, était contre la grève, évidemment, et l'extrême droite était dans une tradition anticommuniste et antisyndicale, sur un terrain qui était, comme sa fille, anti-immigrée, hein, c'est le fonds de commerce du Front National, puis du Rassemblement National depuis des décennies, mais était aussi très violemment antisyndical et anticommuniste. Aujourd'hui, et Marine Le Pen là a fait évoluer la ligne du Front National, on a un Front National qui se prétend plus social. Bon, on sait tous que s'ils étaient au pouvoir, c'est pas les travailleurs qui en seraient les premiers bénéficiaires, hein, on s'en doute. Mais en tout cas, dans le discours, il y a eu un changement ces dernières années qui explique pourquoi le Front National n'était pas dans les rues hier, hein, heureusement. Mais il y avait un soutien général annoncé, en tout cas par Marine Le Pen, aux manifestations et aux mobilisations d'hier, oui.
Ce qui est là aussi un peu étonnant, parce qu'on aurait pu se dire, et d'ailleurs le débat reste ouvert, est-ce qu'il peut y avoir une convergence entre des gilets jaunes dont certains sont des petits patrons, des gens qui se plaignaient de la lourdeur des taxes et des fonctionnaires qui hier défilaient parce qu'ils sont inquiets pour leur retraite. Christophe Aguillon, comment voyez-vous cette possible ou cette impossible convergence?
Les deux existent en même temps. Évidemment, si on prend les choses d'un point de vue sociologique, c'est pas du tout les mêmes secteurs. Hein. Bon, les gilets jaunes, c'était avant tout des salariés qui travaillaient beaucoup, hein, puisque leur voiture était leur principal outil de travail, hein, pour se rendre à leur travail, mais qui venaient de petites villes, voire de territoires ruraux. Hein. C'était des secteurs vraiment de la classe ouvrière, ou en tout cas des salariés de ce pays qui étaient vraiment à des petits salaires, qui, tout en travaillant beaucoup, bien évidemment, mais qui n'avaient jamais été syndiqués, jamais membres d'organisations syndicales ou politiques, dans la très grande majorité des cas, quand on écoutait leurs leaders, aucun d'entre eux n'avait un parcours, une trajectoire syndicale ou politique. Bon. Et ce mouvement a été vraiment celui-là, celui de la ruralité et des petites villes, hein, et des salariés les plus modestes de ces petites villes et de la ruralité. À l'inverse, les services publics, c'est avant tout dans les métropoles, hein, puisque c'est là où on retrouve les services comme les transports en commun. Les cheminots eux-mêmes sont organisés autour des grandes gares ou des grands nœuds ferroviaires. Donc c'est des mouvements qui sont ceux de salariés qui, eux, sont très organisés, hein, ce qui reste comme force dans le mouvement syndical français, c'est les services publics, hein, dans leur totalité, hein, bon, et qui sont des gens qui sont surtout dans les métropoles, les grands centres urbains. Donc on a sociologiquement une grande différence. Par contre, sur les motivations de la lutte et sur les motivations tant des gilets jaunes que des grévistes et des manifestants de la journée d'hier, du 5 décembre, il y a beaucoup de choses en commun. Hein, bon, c'est la défense d'un certain modèle français, hein, bon, qui est celui d'une protection sociale forte, hein, de ce que certains ont appelé une économie morale, hein, c'est-à-dire l'idée qu'il n'est pas acceptable de laisser des enfants dans la rue ou des personnes âgées sans ressources, qui n'est pas acceptable de ne pas s'occuper ceux qui sont au chômage contre leur gré et qui se retrouvent avec un RSA ou des revenus extrêmement faibles. C'est contre tout ça que se sont mobilisés les gilets jaunes et c'est aussi contre tout ça que se mobilisent aujourd'hui les grévistes des secteurs publics qui sont dans la rue.
Un sociologue, Jean-Michel Denis, dans Le Monde, dit « Les salariés de la SNCF et de la RATP sont les derniers à pouvoir établir un rapport de force national. » On est vraiment dans le cadre, selon lui, d'une grève délégataire, car les autres catégories de salariés ne peuvent plus se permettre cela. Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, il a tout à fait raison. Mais en fait, c'est une vieille histoire, hein, qui date de 95. Hein, bon, on a une situation dans laquelle le salariat a beaucoup évolué parce que les grandes citadelles ouvrières qui étaient Billancourt, quand ils éternuaient, faisaient tousser la France.
C'était Renault, il faut le préciser.
C'était Renault, évidemment. C'était la grande usine de Renault qui était à Boulogne-Billancourt. Bon, tout ça est terminé. Hein. On a un travail qui s'est émietté à la fois dans les entreprises mêmes et puis les entreprises elles-mêmes par les délocalisations, par tous les processus liés à la mondialisation, la construction de l'Union européenne ont considérablement changé. Mais dans tous ces conflits depuis 95, hein, et c'est vrai pour 2010-2016 comme aujourd'hui, c'est le mélange de trois facteurs qui sont déterminants. Hein, c'est ce mélange qui est déterminant. Le premier facteur, c'est évidemment la grève. Et peu de secteurs sont capables de la tenir longuement. Hein, comme l'a dit Jean-Michel Denis, c'est en effet les cheminots, la RATP...
Ce sociologue qui s'exprime dans le monde.
Et puis, deuxième facteur important, c'est le nombre de manifestants. Hein. Vous vous rappelez qu'en 95, c'est pas tant la grève qui a fait plier le gouvernement, même si elle a beaucoup pesé. C'est ce qu'on appelait à l'époque le Juppéton. Puisque Alain Juppé, droit dans ses bottes, nous avait dit « Oh, s'il y a 1 million de manifestants, évidemment que le plan sera retiré. » Et tout le monde jouait, comme au Téléthon, à faire monter le nombre de manifestants jusqu'à ce 5 décembre 95, où le million a été atteint, comme hier, déjà.
Alors, il faut quand même rappeler là aussi, pardon.
Troisième facteur, et je finis là-dessus, ensuite évidemment je vous laisse parler, c'est l'opinion publique. Hein, et dans tous les cas, c'était vrai en 95 comme c'est vrai aujourd'hui, on a une opinion publique, et c'était vrai pour les Gilets jaunes, qui soutient les mouvements. Et donc ces trois facteurs mélangés, grève, manifestation et opinion publique, c'est ça qui fait qu'un mouvement peut gagner face à un gouvernement.
Moi j'en rajouterais un quatrième pour 1995, qui est la durée, puisque ça a débuté le 24 novembre, et ça s'est terminé, je crois, le 15 décembre. Donc une durée extrêmement longue, et là, vous étiez hier dans la manifestation, Christophe Guiton, je rappelle que vous êtes militant d'Attaque et fondateur de Sud, avez-vous vu la même détermination? Est-ce qu'il est possible de jauger de la capacité de ce mouvement à durer, s'il doit durer d'ailleurs?
Hier, moi, j'ai senti beaucoup, beaucoup de détermination dans la rue. Hein, bon, et je pense, on va voir, hein, puisque vous savez qu'il y a une réunion de l'intersyndicale aujourd'hui, hein, il se retrouve, je crois, à 10h ce matin pour décider de nouvelles dates de mobilisation, mais qu'on va retrouver à nouveau cette articulation entre des grèves dures, cheminots et RATP en particulier, mais aussi des grands rendez-vous. Hein. Je sais que se préparent déjà des manifestations qui auront probablement lieu mardi, jeudi prochain, hein, autour des moments où le gouvernement va s'exprimer.
Mardi et jeudi prochain.
Probablement, hein, on le saura pendant la matinée, mais c'est ce qui se discutait hier dans les rangs syndicaux. Hein, essayer de trouver des moments où on pourra permettre à tous ceux qui ne sont pas en grève, parce qu'ils ne le peuvent pas pour des raisons financières, ou parce qu'ils ont peur d'être licenciés, ou parce qu'ils sont déjà dans une situation de précarité, de se retrouver avec les grévistes. Exactement comme la journée d'hier. C'était, il n'y a pas 800 000 personnes qui travaillent chez les cheminots et dans la RATP. Hein, ça se saurait. Hein, ça, en tout, ça fait moins de 150 à 200 000 personnes, pas plus. Donc on va avoir une construction d'une mobilisation qui va à nouveau allier ces trois facteurs, grève, des grandes journées de manifestation et une opinion publique qui jusqu'à présent est très massivement en faveur de cette mobilisation.
1995, c'était, on en a parlé hier déjà, une polémique également entre deux intellectuels, Bourdieu et Ricoeur. Alors, le sociologue Pierre Bourdieu, le philosophe Ricoeur, il se trouve qu'aujourd'hui Emmanuel Macron considère qu'il y a une sorte de filiation entre Ricoeur et lui, et plus précisément encore entre la deuxième gauche qu'incarnait Ricoeur et une gauche peut-être plus marxiste, plus critique qu'incarnait Bourdieu. Et pour autant, lorsqu'on relit les propos de Ricoeur, ils sont d'ailleurs disponibles sur le site de France Culture, il y a un article signé Chloé Leprince qui permet de reprendre les différentes pièces de ce débat. Ricoeur disait « Nous sommes face à une crise de très longue durée, il faudra peut-être 50 ans de crise en crise pour parvenir à l'ajustage de la rationalité économique et de nos désirs sociaux. » Ce qui est finalement une phrase qui semble extrêmement pertinente aujourd'hui, Christophe Guiton.
Ah, ce qui est sûr, c'est qu'on est depuis plusieurs décennies maintenant, et 95, c'est près de 25 ans, hein, bon, dans une situation où les conflits sociaux ne cessent de se multiplier. Hein, bon. Et c'est vrai, pas qu'en France, hein, c'est vrai en Europe occidentale, en Amérique du Nord et dans d'autres régions du monde. Regardez la revue de presse qui vient d'être donnée sur cette antenne. Hein, on voit qu'entre l'Algérie, le Liban, on pourrait parler du Chili, on pourrait parler de Hong Kong. Hein, bon, on a une espèce de radicalité des mobilisations, tant sociales que politiques, hein, qui s'explique par les effets de la mondialisation libérale, c'est-à-dire une montée des inégalités, une montée de la précarité, une impression que son avenir lui échappe des mains. Et ça, c'est au cœur des mobilisations que nous connaissons.
Et oui, c'est toujours cette même question, je répète les mots de Ricoeur, ajustage de la rationalité économique et de nos désirs sociaux. Ce qui s'est passé au terme de 95, c'est que la deuxième gauche a été, disons, j'allais dire enterrée, mais en tout cas, elle a débuté un processus de décomposition. Absolument. Et la gauche critique a pris le dessus. Mais finalement, est-ce qu'on a eu raison de l'enterrer, cette seconde gauche? Est-ce que les débats qui aujourd'hui sont là sur la retraite, sur la répartition des richesses, sont des débats qui finalement étaient tout à fait pris en compte par cette deuxième gauche? Est-ce que il est possible finalement de voir que celle-ci a encore son mot à dire? Qu'est-ce que vous vous en pensez, vous qui êtes militant d'attaque et qui avez fondé Sud, Christophe Aguiton?
Emmanuel Macron est d'une certaine façon dans la continuité de cette deuxième gauche, hein, qui caractérisait Strauss-Kahn et Alain Touraine aussi, qui était très opposé à Bourdieu, hein, pendant les mobilisations de 1995.
Un autre sociologue.
Moi, ce que je remets en cause dans la formule de Ricoeur, c'est cette espèce d'idée que la rationalité économique va de soi, qu'elle s'impose de façon inéluctable. Ça, c'est plus que discutable, c'est à mon avis faux. On a vu dans l'histoire du capitalisme, je parle même pas des tentatives, évidemment, souvent loupées, comme on l'a vu en Union soviétique, en Chine ou ailleurs, de rompre avec le capitalisme, mais même sous le capitalisme, il y a des phases très différentes. Les 30 glorieuses, les années 60-70, n'ont rien à voir avec la mondialisation libérale actuelle. On a connu dans les deux derniers siècles des phases de mondialisation, hein, à partir des années 1850, dans une situation dominée par la Grande-Bretagne, la première grande mondialisation de l'ère capitaliste. On en connaît une deuxième aujourd'hui, mais entre les deux, il y a eu des périodes dans lesquelles les États-nations avaient une importance majeure et jouaient un rôle déterminant dans la conduite des économies. Tout ça, ce n'est pas pour revenir à un passé glorieux, hein. Je suis pas en train de dire que les 30 glorieuses, c'était le paradis sur Terre. Loin de là, hein, il y avait aussi beaucoup d'inégalités. Le fordisme, c'était le travail à la chaîne. Il y a beaucoup de choses qu'il fallait évidemment remettre en cause. Mais l'idée qu'il y a une rationalité économique qui s'impose à toutes et tous, quoi qu'on fasse, c'est faux. Hein. Il y a une phrase de Karl Polanyi, hein, ce grand philosophe, sociologue, économiste, enfin un peu tout à ça à la fois dans la grande transformation, qui dit qu'il faut réencastrer l'économie dans le social. C'est-à-dire, d'une certaine façon, c'est la société qui doit faire loi et pas une espèce de rationalité comme ça, dont on a l'impression qu'elle descend directement des cieux. C'est évidemment absurde.
Hein. Pas les 14%.
Voilà, pas les 14%
qui seraient en quelque sorte le maximum de ce qu'on est prêt à verser pour les retraites. Et là, justement, pensez-vous qu'il y ait la possibilité de marquer une étape dans l'histoire de cet affrontement entre soi-disant rationalité économique, je reprends vos termes, et les désirs sociaux, les aspirations sociales des individus?
J'espère que les aspirations sociales vont l'emporter. On le verra dans les jours qui viennent, mais moi, pour ce qui me concerne, je serai dans les prochaines manifestations, ça pour sûr.
Merci Christophe Aguiton.
Merci à vous.
Vous avez notamment publié La gauche du 21e siècle aux éditions La Découverte. On va parler de livres dans quelques instants. On sera en compagnie du chroniqueur à Libération et à Charlie Hebdo, Philippe Plançon. Il publie les chroniques de l'homme d'avant et Philippe Plançon sera dans ce studio dans quelques minutes. En attendant, il est 8h sur France Culture. Excellent réveil à tous. Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Entre 800 000 et 1,5 million de personnes étaient dans les rues de France hier. La mobilisation a été massive contre la future réforme des retraites. Les manifestants sourient quand le gouvernement temporise un petit peu. Nous ferons le point dans un instant.
Nous interrogerons aussi les syndicats qui appellent à la grève. Ils se réunissent ce matin pour décider des suites du mouvement.
François Bayrou est convoqué aujourd'hui en vue d'une très probable mise en examen. Le président du Modem est impliqué dans l'enquête sur les soupçons d'emploi fictif d'assistants d'eurodéputés.
Et dans ce journal, nous irons aux États-Unis en pleine campagne démocrate pour l'investiture à la présidentielle. L'un des candidats en vogue a 37 ans. Il se compare volontiers à Emmanuel Macron, vous l'entendrez.
Et puis nous irons en Pologne. Angela Merkel est attendue à Auschwitz aujourd'hui. Une première depuis qu'elle est chancelière allemande. Mais l'on commence d'abord par cette grève qui en rappelle une autre. Au Royaume-Uni aussi, les cheminots débrayent et cela va durer jusqu'à la fin de l'année. Près de la moitié des trains sont supprimés outre-Manche, faute de personnel. Ils veulent en fait défendre la meilleure sécurité des voyageurs. La direction souhaiterait confier la responsabilité de fermer les portes des wagons des trains aux conducteurs. Impossible, disent-ils, et ils bloquent le trafic, Louise Baudet.
Sous l'immense verrière de la gare de Waterloo, il y a certes foule aux heures de pointe, mais ce n'est pas la crise de nerfs annoncée. Beaucoup se sont organisés et si certains sont excédés par les retards et les rames bondées...
Il n'y a que deux trains par heure au lieu de quatre, c'est vraiment déplorable.
D'autres sont plus compréhensifs.
Je suis très touché par la grève, oui, mais en même temps, les travailleurs du rail n'ont pas la vie facile. Alors je pense qu'il devrait y avoir un compromis entre les deux camps.
Je suis pour qu'ils maintiennent deux personnes à bord. Le conducteur a trop à faire, il ne peut pas s'occuper en plus de ce qu'il se passe derrière.
La direction veut confier au conducteur la fermeture des portes des wagons, mais elle promet qu'un second employé restera présent dans le train, sans convaincre Steve Edlet du syndicat RMT à l'origine de la grève.
Pourquoi il garderait quelqu'un d'autre dans le train s'il n'a aucune responsabilité en matière de sécurité? Les conducteurs doivent regarder devant eux et pas derrière leur épaule pour s'assurer que personne n'est coincé entre les portes.
Revendication proche du droit de retrait exercé en octobre par les cheminots français après un accident de TER. Outre-Manche, on observe d'ailleurs de très près ce qui se passe en France.
Les Français, quand ils se mettent en grève, c'est très puissant. Alors on leur souhaite bonne chance et on continue à lutter ici aussi.
Le rail britannique fait partie des enjeux de la campagne en cours. Depuis sa privatisation il y a 25 ans, le prix des billets a explosé et le Parti travailliste promet de le renationaliser en cas de victoire jeudi prochain.
Revenir à un service public du rail en France, c'est notamment pour le défendre que des centaines de milliers de personnes étaient dans la rue hier. C'était surtout pour défendre leur régime de retraite actuel, toutes professions confondues. Mobilisation d'ampleur, comme annoncé. Le ministère de l'Intérieur évoque 806 000 manifestants partout en France. 1,5 million, dit la CGT. C'est au minimum deux fois plus qu'en 2010. 300 000 personnes de plus qu'en 1995. Paris donc réussi pour Christine dans le cortège parisien hier.
Moi j'étais impressionnée parce que là je me suis dit de voir tous ces gens qui effectivement voulaient faire passer un message. Sincèrement j'ai jamais vu ça, j'ai souvent fait des grèves mais là c'est la première fois où je me sentais bien. Tous rassemblés, tous organisations confondues et tous les corps de métier, c'était ça le signe à passer. Tous ces corps de métier qui étaient là sur ce seul jour, on a montré qu'on était fort et qu'on était tous solidaires les uns les autres. On a réussi au moins à montrer qu'on n'était pas d'accord.
Alors globalement, ces rassemblements hier se sont déroulés dans le calme. Quelques affrontements avec des casseurs ont tout de même éclaté à Paris. Plus de 70 personnes étaient en garde à vue hier soir encore. Violence également à Lyon, Montpellier ou Toulouse. Pour jouer l'apaisement, le Premier ministre Édouard Philippe a pris la parole en fin d'après-midi.
Dans l'ensemble, les grèves et les manifestations se passent conformément à ce qui était prévu. Il y a eu beaucoup de manifestations organisées en France. Dans un très grand nombre de villes, elles se sont bien passées, car elles ont été bien organisées. Je veux rendre hommage aux organisations syndicales qui les ont encadrées. Évidemment, nous rappelons notre attachement au respect du droit de grève, au respect du droit de manifester. Ce sont deux libertés constitutionnelles qui sont garanties. Mais nous rappelons également notre attachement au respect des droits d'aller et de venir de chacun de nos concitoyens. C'est l'état d'esprit dans lequel nous travaillons.
Et le gouvernement travaille et veut le faire savoir. Hier soir, c'est Gérald Darmanin, le ministre des Comptes publics, qui s'exprimait, lui, sur le plateau de France 2. Cette réforme des retraites ne sera pas précipitée, a-t-il martelé. En revanche, c'est sûr, il faudra travailler plus longtemps.
On ne peut pas réformer 80 ans d'un patrimoine commun pour l'améliorer en quelques jours, en quelques mois. Donc ce que vous avez pris peut-être parce que c'est un peu notre faute, comme un flou, c'est le temps de la réflexion et du dialogue social. Et il continuera dès la semaine prochaine. Est-ce qu'on est pressé au point qu'il faut le faire dès l'année prochaine? Bon, on voit bien que le trou des 10 milliards par an, il est à partir de 2025. Il ne faut pas casser la réforme sociale que nous voulons porter en faisant une réforme effectivement budgétaire immédiatement. Mais on dit aussi qu'il faut être responsable. Donc notre proposition, c'est pas de baisser les pensions, c'est pas d'augmenter les cotisations, mais c'est de travailler plus longtemps puisqu'on vit plus longtemps.
Gérald Darmanin qui confirme ainsi que le déficit du régime des retraites pourrait durer, les objectifs d'économie sont retardés, des détails que le gouvernement présentera la semaine prochaine. D'ici là, ce gouvernement pourrait rencontrer une fois encore les organisations syndicales dès ce week-end, même si les organisations syndicales dans leur grande majorité sont bien décidées à faire plier l'exécutif avec un mouvement long. L'intersyndicale se réunit d'ailleurs dans une heure à 9h au siège de Force Ouvrière à Paris avec des profils très différents, Anne-Laure Jumet.
Un taux de grévistes exceptionnel, une adhésion très large, une mobilisation inédite. Les qualificatifs ne manquaient pas hier dans la bouche des syndicats pour saluer ce mouvement du 5 décembre. Ce matin, les organisations tireront les leçons de cette mobilisation. La CGT, FO, la FSU et même la CFE-CGC qui vient de rejoindre l'intersyndicale. La Confédération des cadres n'a pas vraiment l'habitude de défiler, mais son président François Omeril est aujourd'hui persuadé que ce qui se joue est un affaiblissement du régime par répartition et il entend aussi les inquiétudes de sa base.
La pression du terrain, elle est très forte. Elle est très très forte. Les gens sont très inquiets et ils y voient clair. On ne peut plus les tromper maintenant. Ce projet qui est un de plus. D'abord, on casse le code du travail, on démolit le système de formation, on attaque les chômeurs au lieu d'attaquer le chômage, et au final, on s'attaque à la retraite. Je pense que maintenant, les gens ont compris. Et effectivement, ils sont prêts à se mobiliser parce que trop, c'est trop.
Et François Omeril demandera le retrait de la réforme si le gouvernement continue, dit-il, à ne pas donner d'espace aux partenaires sociaux. Du côté de la CGT et de Force Ouvrière, il n'y a pas de conditionnel. L'exécutif doit abandonner son projet. La pression sera maintenue au moins jusqu'au début de la semaine prochaine. Et certains envisagent déjà de battre une nouvelle fois le pavé
mardi prochain.
Il y a notamment le SNES-FSU, syndicat enseignant, qui évoque cette date de mardi prochain pour une future mobilisation. Dans les transports, la grève, elle est reconduite dès ce vendredi. Même journée qu'hier à la SNCF et à la RATP en Ile-de-France. Il y a d'ailleurs du monde déjà sur les routes dans la région parisienne. Après Sylvie Goulard, après Marielle de Sarnez, le président du Modem est à son tour convoqué ce vendredi en vue d'une mise en examen. Comme ses collègues, François Bayrou est soupçonné de détournement de fonds publics dans l'affaire des emplois fictifs d'assistants d'eurodéputés au Modem. L'enquête s'accélère, Manon Klein.
Une succession de procédures qui interroge au sein du Modem. On est juste avant les municipales, ça faisait 2 ans que l'affaire était en suspens, c'est étonnant. Commente dubitatif un élu centriste. Cela dit, ils sont tout de même plusieurs dans le parti à attendre la conclusion de ces investigations pour sortir, disent-ils, d'une forme de soupçon. Certains reconnaissent de possibles fautes, des pratiques, je cite, « borderline » avec les assistants parlementaires européens du parti. Mais ils ressentent tout de même une forme d'injustice. C'était une optimisation des ressources dans un petit parti. Ça n'excuse rien, mais il y a eu pire au PS et chez LR, dit l'un d'entre eux. Une défense inaudible auprès du grand public, cet élu le sait. C'est pour cela qu'il veut rester anonyme. Cette discrétion un peu forcée, elle est parfois frustrante pour certains. On fait partie de la majorité, on aimerait pouvoir peser sur les décisions. Mais là, c'est difficile, commente un membre du Modem. Cette affaire, elle a déjà coûté la place de François Bayrou au sein du gouvernement. Elle continue à l'affaiblir aussi bien dans sa parole publique que dans son poids politique auprès d'Emmanuel Macron.
C'était Manon Klein pour France Culture. Plusieurs dizaines de CRS ont reçu des menaces de mort par courrier à leur adresse personnelle ces derniers jours à Limoges, Grenoble ou Périgueux. Les syndicats de police, dans un communiqué, font part de leur stupéfaction et de leur colère. Certains implants contraceptifs peuvent migrer jusqu'aux poumons des patientes. C'est l'Agence nationale de sécurité du médicament qui lance l'alerte après avoir recensé plusieurs cas. Et elle va donc envoyer une lettre aux médecins dans les prochaines semaines pour les appeler à la vigilance. Les implants de la marque Nexplanon sont les seuls commercialisés en France. Ils concernent 200 000 femmes chaque année.
8h09 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. La campagne électorale se poursuit aux États-Unis à moins d'un an de la présidentielle. Il y a 15 candidats démocrates à l'investiture.
Oui, et à 2 mois du premier caucus, un nom revient souvent, celui de Pete Buttigieg. Il est jeune, plutôt au centre. Il arrive en tête des enquêtes d'opinion dans 2 États clés, dans l'Iowa et le New Hampshire. Et c'est d'ailleurs là, dans le New Hampshire, que Gregory Phillips a rencontré ce candidat qui parle français.
Jour après jour, Pete Buttigieg laboure cet état du New Hampshire. Pour la seule journée d'hier, le candidat a enchaîné 3 town hall, des réunions publiques où les habitants viennent l'interroger sur son projet pour l'Amérique, la couverture santé, l'avortement. Il lui pose aussi des questions plus personnelles sur son couple ou son animal de compagnie. Il faut dire que Buttigieg intrigue. Peu d'expérience politique, hormis celle d'être le maire de South Bend, 100 000 habitants. Il est chrétien, centriste, vétéran de la guerre en Afghanistan et seul candidat ouvertement homosexuel depuis qu'il a épousé Chaston il y a 1 an et demi. Enfin, Buttigieg parle 7 langues et c'est en français qu'il répond quand on lui demande si son âge, 37 ans, est un handicap face au septuagénaire Biden, Bloomberg ou Warren.
Peut-être c'est comme ci, comme ça, mais je crois que pour gagner, il faut un candidat qui est nouveau et une génération nouveau. En France, on voit un président 39 ans, je crois, quand il a commencé.
Pete Buttigieg, encore inconnu il y a 6 mois, est désormais en tête des sondages dans l'Iowa et second dans le New Hampshire. Une victoire dans l'un de ses États en février ne lui garantirait pas l'investiture du Parti démocrate, mais elle donnerait un énorme coup d'accélérateur à sa campagne.
C'était Grégory Phillips pour France Culture aux États-Unis. Les États-Unis où la plateforme de véhicules avec chauffeur Uber révèle finalement le nombre d'agressions sexuelles rapportées par les utilisateurs ou les conducteurs. Près de 6000 agressions ont été rapportées entre 2017 et 2018. Uber précise aussi avoir enregistré 235 viols l'année dernière et voit les procès se multiplier aux États-Unis. Ces derniers jours, en Europe et notamment en France, les témoignages d'agressions sexuelles se multiplient également contre le groupe VTC avec des appels au boycott. C'est la première fois en 25 ans. La chancelière allemande Angela Merkel se rend aujourd'hui au camp de concentration et d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne. Plus +1 100 000 personnes y sont mortes entre 1940 et 1945. Près de 75 ans plus tard, l'antisémitisme et les violences d'extrême droite ressurgissent en Allemagne, Ludovic Piétenu.
Le nombre d'actes antisémites a atteint un chiffre record l'an dernier en Allemagne. À ces statistiques souvent sous-évaluées, plusieurs chercheurs ajoutent qu'une parole de haine s'est libérée dans le pays. Une digue a sauté. Ce n'est donc pas sans lien si Angela Merkel a choisi ce geste fort, cette visite chargée en symboles, en répondant à l'invitation de la fondation chargée depuis 10 ans de protéger Auschwitz-Birkenau, son directeur Wojciech Soczewica. Je suis convaincu qu'une visite politique du plus haut niveau dans ce lieu joue un rôle très important. Des gens comme des chefs d'État ou de gouvernement sont des modèles à suivre. Ils sont regardés, écoutés. Et les mots peuvent émouvoir les gens. Je suis sûr que les mots peuvent être magnifiés par un endroit comme celui-ci. Et si nous voulons changer ces comportements sociaux et politiques qui sont très inquiétants en ce moment, alors une telle visite est essentielle pour rappeler ce qui s'est passé ici. Ce directeur de la fondation Auschwitz-Birkenau insiste sur l'élément le plus important à ses yeux, dans lequel tous les États touchés par cette résurgence de l'antisémitisme, comme la France ou l'Allemagne, devraient investir. L'éducation, en inculquant aux plus jeunes ce qu'a été l'Holocauste.
L'engagement, la mobilisation de la jeunesse, voici les objectifs qui sont au cœur de la campagne d'Amnesty International, une campagne intitulée « 10 jours pour signer ». Cette pétition est lancée aujourd'hui et nous en sommes partenaires. Amnesty International a choisi de défendre 10 jeunes à travers le monde qui luttent pour défendre la planète, le droit au logement, qui dénoncent les violences policières ou qui se mobilisent en faveur des réfugiés. Le grand reportage de France Culture ce soir y sera consacré et nous emmènera Marie-Pierre Véraud en Grèce, en Égypte, au Canada et au Mexique, exemple à l'appui.
José Drian, un jeune d'origine maya, n'avait que 14 ans lorsqu'il a été enlevé sans raison par la police et torturé. Pour le faire sortir de prison, sa famille a dû s'endetter. Les policiers restent impunis. Avec Alix Sardi, nous retracerons le calvaire du jeune José et dresserons le bilan d'un an de pouvoir du président López Obrador, bien maigre en matière de lutte contre les violences des forces de sécurité. Ce sont les droits des peuples autochtones, souvent bafoués, particulièrement ceux de la communauté de Grassy Narrows au Canada, que nous évoquerons également avec Pascal Guéricola, une communauté de l'Ontario qui se bat depuis plus de 10 ans pour obtenir des avancées dans l'empoisonnement de ses cours d'eau au mercure et la contamination de 90% de sa population. Triste bilan aussi en Égypte, où les dernières voix rares de la presse libre ou des ONG sont bâillonnées. Martin Roux a notamment rencontré le président de la Commission des droits et libertés, l'un de ces jeunes militants, Ibrahim Ezeldine, qui défendait le droit au logement, a été enlevé par des agents de la sécurité et détenu au secret. C'est l'une des nombreuses disparitions forcées du règne Al-Sisi. Deux jeunes enfants, deux bénévoles qui portaient secours aux migrants sur l'île grecque de Lesbos, risquent 25 ans de prison, autant que leur âge. Nous entendrons l'un d'eux. Leur défense par Amnesty prend la forme d'un réquisitoire contre la criminalisation des ONG d'aide aux migrants et réfugiés.
Signé pour sauver des vies, c'est le grand reportage de la rédaction en partenariat avec Amnesty International. Ce soir, il doit être diffusé à partir de 17h, coordonné par Marie-Pierre Véraud, réalisé par Annie Brault. Il sera présenté par Aurélie Kiefer. Ce vendredi également, les jeunes du monde entier se feront entendre en marge de la COP25 pour sauver la planète. Ils se sont donné rendez-vous à Madrid, dans le sillage de la jeune militante suédoise Greta Thunberg. Le climat et ce froid toujours présent en France métropolitaine aujourd'hui, avant l'arrivée d'une nouvelle perturbation pluvieuse par l'ouest. Ce matin, il fait 0 à Strasbourg, 3 degrés à Paris, 4 à Lille et Lyon, comptez 6 degrés à Nantes et 11 degrés à Marseille et sur la Corse.
Merci Clara Lecoq-Réal. Dans quelques instants, Philippe Lançon, chroniqueur, écrivain à Libération et à Charlie Hebdo sera dans ce studio. Il publie Chronique de l'homme d'avant. C'est aux éditions Les Échappées. Dans 30 minutes environ, vous retrouverez les traditionnels TTC avec la transition d'Hervé Gardette, la théorie culturelle de Mathilde Serrel et puis la conclusion d'Aurélien Bélanger. Et puis un billet politique avec vous Frédéric Saïs, bonjour.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous.
La réforme des retraites verra-t-elle le jour?
Oui, les mouvements sociaux ont échoué à faire abroger les réformes depuis 15 ans. Pourquoi, avec ce texte sur les retraites, cela pourrait changer?
Dans quelques instants.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Tu sais que t'as des têtes,
France Culture
t'as des têtes,
présente t'as des têtes, Une femme se déplace, soeur, une comédie musicale de David Lescot. Voyager dans sa vie, retourner dans le passé, explorer le futur comme si l'on parcourait sa propre biographie. Impossible, pas sûr, si l'on en juge par ce qui arrive à Georgia. Inspiré par l'univers de la comédie musicale, David Lescot brosse le portrait drôle, touchant et fantaisiste d'une femme qui se libère. Une femme se déplace, du 11 au 22 décembre au Théâtre de la Ville, Les Abbesses, à Paris. un partenariat France Culture.
8h17. Le billet politique, Frédéric Saez, le bras de fer ou le gant de velours?
S'il est difficile de savoir comment va tourner le mouvement social, on peut déjà dégager un certain nombre de constats qui entaillent l'optimisme du gouvernement. D'abord, ce dernier a perdu la bataille des mots. Lui qui aime parler de transformation, d'adaptation. Eh bien, concernant les retraites, le terme qui s'est imposé, c'est réforme. Réforme, ce bon vieux mot qui fleure les cortèges et les banderoles. Ensuite, les chiffres, au minimum 800 000 personnes, on l'a dit, affluence importante pour un jeudi du mois de décembre, sans oublier une mobilisation record dans l'éducation nationale, record depuis 2003. Bref, les faits sont là. L'exécutif a beau plaider sa cause, réaffirmer que son projet est ambitieux, qu'il est systémique et non paramétrique, c'est-à-dire qu'il vaut mieux la chirurgie plutôt que l'esparadrap, eh bien le corps social garde de sérieux doutes sur le bien fondé de l'opération. Alors tel que le bras de fer est engagé, il ne peut y avoir de solution médiane, modérée, en demi-teinte, parce que d'un côté, Emmanuel Macron parle des retraites comme de la mère des réformes, je cite le Figaro de ce matin, dans le camp d'en face, les manifestants n'ont qu'un mot à la bouche, retrait, retrait total de la loi. Certains ont en mémoire l'époque Chirac et le CPE, ce nouveau type de contrat pour les jeunes, très décrié à l'époque, et après plusieurs semaines de blocage et de défilés, le président Chirac avait été contraint de reculer sans vraiment l'admettre.
J'ai décidé de promulguer cette loi, mais j'ai entendu également des inquiétudes qui s'expriment chez de nombreux jeunes, et je veux y répondre. C'est pourquoi je demande au gouvernement de préparer immédiatement deux modifications de la loi sur les points qui ont fait débat.
Et la loi avait été tout bonnement abrogée, beaucoup de mots pour dire une réalité simple. Mais si les manifestants se raccrochent à cette jurisprudence pour prouver que le recul est possible, ils doivent aussi admettre que cet exemple est plutôt isolé ces dernières années. C'est même un contre-exemple. Tenez, les manifestations monstres n'ont pas réussi à bloquer la réforme des retraites de 2003. Elles n'ont pas empêché la loi El Khomri sous François Hollande. Elles n'ont pas perturbé les ordonnances sur le code du travail plus récemment. Pas plus d'ailleurs que les manifs n'ont entravé la réforme Sarkozy des régimes spéciaux en 2008. Tiens, au passage, à l'époque, on nous disait que c'était fini des régimes spéciaux. Les voici pourtant qui reviennent sur la table. Mystère et permanence de la vie politique française.
Que peut faire le gouvernement, Frédéric?
Alors déjà, sortir d'une ambiguïté. Cette réforme vise-t-elle à court terme à faire des économies ou pas? Est-ce une réforme d'architecture ou bien une simple réforme financière? Alors si le gouvernement ne sort pas encore de cette ambiguïté, c'est parce qu'il est un peu coincé. D'un côté, son seul allié syndical, la CFDT, considère comme une ligne rouge la tentation d'aller chercher des économies, Laurent Berger nous l'a dit hier sur France Culture, mais de l'autre côté, si le gouvernement renonce à cette dimension d'équilibre des comptes, cela signifie en fait qu'il n'y a pas péril en la demeure et il devient alors compliqué d'expliquer aux Français pourquoi il faudrait tout changer. Hier, le gouvernement a adopté une stratégie de communication assez simple, reconnaître d'entrée de jeu le succès numérique de la mobilisation, accepter le chiffre élevé du nombre de manifestants. Il espère ensuite, le gouvernement, une décrue au fil du mois de décembre pour pouvoir dire que le mouvement s'affaiblit avec, en arrière-plan, l'idée que les arbitrages rendus mi-décembre et les fêtes de fin d'année tariront l'angoisse et la colère. Calcul très optimiste de la part de l'exécutif, car l'ampleur des cortèges hier le montre, le bras de fer sera évidemment musclé, ou si l'on veut le dire avec les mots savants de la réforme, la mobilisation sociale n'est pas paramétrique, elle est bien systémique.
Merci Frédéric Saez, 8h21 sur France Culture.
7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Bonjour Philippe Lançon, vous êtes chroniqueur à Charlie Hebdo, journaliste à Libération et écrivain. Vous avez notamment publié Le Lambeau qui a obtenu le prix Femina en 2018. Et là, vous publiez aux éditions Les Échappées, chroniques de l'homme d'avant, avant l'attentat. On y découvre beaucoup de textes superbes que vous avez écrits dans Charlie Hebdo et vous donnez une définition de la chronique. La chronique est la mise en avant du pas de côté. Mais tout d'abord, il n'y a pas de chronique politique dans ce livre à proprement parler. En revanche, nous avions eu une discussion sur Charlie Hebdo et vous m'aviez dit, voilà, je pense qu'Emmanuel Macron n'évoque pas Charlie Hebdo parce que Charlie est un journal de losers et qu'Emmanuel Macron ne croit pas aux losers.
Oui, on dit des choses. Il était, c'était une époque, je pense, où il était encore ce qu'on appelle un winner, si vous parlez de loser, enfin un gagnant, en tout cas perçu comme tel. Et puis, la roue tourne, vous voyez. Et comme dans les bons romans, les romans deviennent intéressants quand, parfois quand celui qui était dans la catégorie des gagnants passe dans celle des perdants, puisque c'est le moment où il commence peut-être à faire retour sur lui-même et sur ce qu'il est. Donc, et je pense que maintenant, je comprends. Moi, effectivement, je ne fais pas de politique au sens où, tout simplement parce que je me considère comme incompétent. Mais je regarde un moment comme celui-là qu'on vit depuis les Gilets jaunes en France comme un formidable basculement évidemment d'une situation générale, mais aussi d'un personnage. Et je suis toujours curieux, là plutôt comme chroniqueur, de voir ce que le personnage va devenir, c'est-à-dire le personnage Macron, comment il va réagir, qu'est-ce qu'il pense en ce moment, comment il vit ça, vers quoi il va. C'est pas de la grande politique, mais à titre romanesque, c'est ce qui m'intéresse.
Il vous intéresse plus qu'auparavant ?
Oui, parce que le vernis, les gagnants ne sont pas très intéressants. Voilà. Finalement, la littérature, ce que j'aime lire, elle est beaucoup faite avec les perdants. Elle est même faite souvent pour eux, pour raconter leur vie. Et c'est toujours intéressant quand un gagnant ou quelqu'un qui se croyait tel bascule dans une autre catégorie. Le basculement est intéressant.
C'est un peu le basculement, votre basculement que vous avez raconté dans Lambeau, le livre qui vous a valu le prix Femina. Et d'ailleurs, vous débutez ce recueil de chroniques, Philippe Lançon, en écrivant la phrase suivante. L'attentat du 7 janvier 2015 m'a épargné la crise de la cinquantaine.
Oui, bon, c'est une phrase, je ne sais pas si on peut dire ironique ou sarcastique. Mais de fait, j'avais 50 ans et l'événement a évidemment considérablement modifié ma vie comme celle de mes compagnons de travail. Hein. Et je parle évidemment pas des morts là, mais des blessés et des survivants. Et donc, la vie d'après, c'est comme si on avait fait tapis d'une certaine façon. Et donc, ma vie a changé à tous les sens du terme. Et ce qui m'intéressait aussi, c'est dans ce livre en particulier, c'était de comprendre, essayer de voir, d'explorer à quel point une écriture pouvait changer à partir de là. Est-ce que je n'en savais rien ? Je me suis posé la question simplement. Et quand Charlie m'a proposé de publier ses chroniques, donc on en a choisi une cinquantaine sur quand on en écrit une par semaine sur 15 ans, ça fait 500 600 chroniques quoi. Et on a choisi des chroniques, j'ai laissé plutôt choisir par une jeune femme qui était éditrice et donc qui avait une dizaine d'années, 10 à 15 ans quand beaucoup de ses chroniques ont été écrites.
Pamela Grossi.
Voilà, Pamela. Et c'était intéressant parce qu'elle a fait des choix qui tirent effectivement ses chroniques vers le moins d'actualité possible et le plus de fiction possible.
Paloma, grossi, voilà, Paloma, on s'est trompé. Voilà.
Et donc, à partir de là, j'ai essayé de comprendre ce que j'avais écrit. Déjà, je dis plutôt de le lire que de le relire, parce que beaucoup de ces chroniques, je dirais pas, il y avait certaines que j'avais oubliées, mais surtout, c'était comme si elles avaient été écrites par un autre. Et donc, c'était intéressant de lire ce qu'avait écrit cet autre. Et de le regarder, de regarder cette écriture, pour ainsi dire, de l'extérieur, depuis la vie d'après.
Et oui, parce que on découvre, alors avec le Lambeau, ce récit de votre expérience après l'attentat de Charlie Hebdo, vous êtes aujourd'hui définitivement considéré comme un écrivain. On découvre que vous faisiez des textes de fiction avant, dans cet exercice, qui est un exercice quand même assez particulier, celui de la chronique. Ce sont des textes qui n'ont pas nécessairement vocation à être vrais, à être exacts, à être précis. Comment définirait-on cet exercice de la chronique, Philippe Lançon ?
La chronique, donc il y a un de mes des écrivains que j'aime le plus et qui m'a inspiré beaucoup, que j'ai lu comme dès l'âge de 16-17 ans, qui était François Mauriac. Il a fait un célèbre bloc-notes qu'il a publié essentiellement dans l'Express dans les années 50 les années 50 à partir de 53. Et en fait, il disait ça. Il disait que pour lui, son bloc-notes, c'était l'affrontement de l'individuel et de l'universel. Alors évidemment, dit comme ça, c'est assez pompeux. Et de toute façon, il est pas possible de se comparer à un écrivain de la taille de Mauriac. Mais c'est le sens du combat en quelque sorte. C'est-à-dire, toujours le chroniqueur, pour moi, c'est celui qui fait entendre, qui confronte sa propre existence à des événements, à des choses vues, à des choses lues. Donc ça peut être une scène vue à la télé, ça peut être un livre qu'il a lu, et qui confronte tout ça, et qui à sa propre vie. Et de ce point de vue-là, je pense qu'il est vraiment du côté du lecteur. C'est-à-dire qu'il dit au lecteur, ma vie n'a absolument pas plus d'importance que la vôtre, mais ce dont je vais vous parler, c'est depuis ma propre vie, depuis ma propre culture, depuis ce que je suis. Voilà. Et c'est ce qui l'autorise aussi à faire ce pas de côté dont vous parliez, qui est de musarder. Le chroniqueur, à mon avis, il va pas du point A au point B. Ou alors, s'il va du point A au point B, il passe par tout un tas d'allées secondaires. Il suit, il voit passer un lapin qui traverse la route, il le suit. Voyez, parce que ce lapin, précisément, entre dans sa vie à ce moment-là. Au moment, dans la semaine où il écrit la chronique. C'est ce qui lui passe dans la tête, c'est ce qu'il voit dans la rue. Voilà. Et il confronte toutes ces choses-là. Et à partir de là, il fait un texte.
Et on découvre des textes qui sont complètement inventés. Par exemple, ce texte du 12 janvier 2005, le dîner tsunami, où vous évoquez un personnage, Gilbert, qui a disparu. Il a disparu, il rentre de vacances de Thaïlande. Il y a rencontré le tsunami, il a survécu au tsunami et il a passé en fait ce séjour, notamment à lire Houellebecq.
Oui, en fait, c'est pas ça, mais je vais pas dire la chute, parce que souvent, dans mes chroniques, il y a des retournements assez violents dans la chute. Ce qui se passe, c'est que c'est un personnage tout à fait neutre, on va dire, et inintéressant pour la plupart des gens qui le connaissaient à son travail. Et à partir du moment où il revient en disant qu'il a été témoin du tsunami, il devient intéressant pour tout le monde. On commence à l'inviter à déjeuner, à l'inviter dans des dîners, etc. Parce qu'il est l'homme qui a vu l'ours. Et puis, il se passe un certain nombre de choses qui vont modifier la perception qu'on a de ce personnage jusqu'à un coup de théâtre final. Et en fait, je pense, là, dans ce cas-là, c'est vraiment là, littéralement une fiction. Je pense, je ne suis plus dans l'état où j'étais quand j'ai écrit ce texte, mais je pense simplement que je suis parti de l'idée, tiens, imaginons un homme qui a passé son été solitaire, un pauvre célibataire, comme vous voyez, qui n'intéresse personne, qui est voilà, et qui a passé son été à lire Houellebecq. Voilà.
Bon été.
Et qu'est-ce que deviendrait, et en l'occurrence plateforme de Houellebecq, et que deviendrait ce personnage? Je crois que c'est une chronique de 2009 ou 2010 ou
non 2005. 2005 et alors, ouais, ce qui est très étrange, c'est qu'on retrouve Houellebecq. Houellebecq a et son sort lié à votre écriture, Philippe Lançon, puisque on sait que la dernière conférence de rédaction de Charlie, celle où les frères Kouachi sont entrés, était une conférence où il y avait notamment une engueulade sur Houellebecq. Et puis on retrouve Houellebecq toujours sous votre plume le 17 novembre 2010, la France du Goncourt, où il est question de Houellebecq qui vient d'obtenir le prix Goncourt.
Oui, mais là, c'est pas une fiction. Il est invité sur France Inter, et si je me souviens bien. Et donc, il est taquiné par Patrick Cohen à l'époque. Et il répond de manière assez agressive sur le sens d'une part de la littérature, hein, c'est-à-dire que la littérature c'est pas du discours, et d'autre part il fait un dégagement assez drôle sur les Chinois en expliquant que la France de toute façon est destinée à devenir un parc d'attraction touristique pour les Chinois. Et voilà, donc il a cet aspect toujours à la fois provocateur, un peu menaçant. Et finalement très drôle, hein. Enfin en tout cas que moi je trouve toujours extrêmement drôle. J'ai jamais pris Houellebecq, et je l'ai raconté d'ailleurs dans le Lambeau, pour un homme politique, vous voyez. Donc c'est un romancier, c'est un bon romancier.
Quelle différence fait-on, parce que lorsque Soumission est paru, et d'ailleurs le regretté Bernard Maris s'engueulait à ce sujet avec ses camarades de Charlie Hebdo, eh bien justement, il était question de savoir s'il fallait prendre Soumission au premier ou à un autre degré. Philippe Lançon, votre point de vue à ce sujet?
Je ne sais pas si c'est une question de degré, mais c'est vraiment une question de lumière. Mais Soumission, pour moi, et je crois pour Bernard Maris, puisque nous en avions parlé très peu de temps avant les événements, et on était aussi les deux seuls à l'avoir lu à ce moment-là, Donc, dans Charlie.
Ce qui n'empêchait pas les gens d'en parler, d'ailleurs.
Non, bien sûr, mais les gens parlent de tout. C'est pour ça, comme vous m'interrogez sur Macron, je le connais pas. Vous voyez, c'est très agréable de parler de gens et de sujets qu'on ne connaît absolument pas.
Et, ça dépend et avec qui.
Oui, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, Soumission, pour moi, c'est avant tout un roman. Donc je l'avais lu comme tel, j'ai jamais pensé que c'était un discours contre l'islam. D'ailleurs, si on le lit bien, le narrateur de cette histoire a l'air plutôt de penser que l'islam c'est pas si mal que ça, que la soumission c'est pas si mal, que ce qu'il faudrait c'est être finalement soumis à un ordre qui soulagerait les gens de leurs angoisses. Ce qui est d'ailleurs effectivement une des vertus possibles de la religion. Donc il y avait beaucoup d'humour là-dedans. Après, plus on connaissait les références qui étaient celles de Houellebecq dans ce livre, aussi bien à Huysmans qu'à Jean Paulhan, plus effectivement on pouvait entrer dans l'ironie propre au texte. Mais c'est la vertu des bons romanciers d'être accessible à tous, chacun selon ses moyens.
Il y a d'ailleurs, justement, dans cette peinture que vous faites et dans ces chroniques, différents patronages. Alors, vous avez cité Mauriac et Cavanna, qui est une autre plume de Charlie Hebdo. Qu'est-ce qui vous a apporté, Cavanna ?
Cavanna, c'était vraiment quelqu'un qui m'impressionnait beaucoup parce que c'est un grand artisan du style. Et je l'entends, je peux ne répondre que par une image. Évidemment, je le vois physiquement. Mais ce grand bonhomme avec ses grandes moustaches, la classe quand même. Hein. Mais avec une espèce de taille de bûcheron, mmh. Vous voyez. Et c'est vraiment l'idée, une idée à laquelle dont je rêve toujours, de quelqu'un qui vient du peuple et qui applique toute la précision et l'artisanat qu'on peut acquérir quand on est dans des milieux ouvriers, etc. Mais appliqué à l'écriture. Et à la culture. Donc, c'est-à-dire, il n'y a plus, vous voyez, de séparation entre, d'un côté, les gens qui seraient du côté de la culture et de l'intellect, on va dire, et puis, de l'autre, les ouvriers, les artisans, etc. Cavanna, il unit tout ça. Enfin, en tout cas, dans mon rêve, en quelque sorte, et quand je le lis, c'est ça que je vois.
Oui, parce que Chronique de l'homme d'avant, autrement dit, ce recueil de chroniques publié aux éditions Les Échappées, Philippe Lançon, c'est aussi la chronique d'un monde disparu. Et il y a cette chronique très touchante qui est une chronique datée du 6 mai 2009 où vous parlez de l'extinction de presse. Vous faites une visite au Washington Post et vous évoquez comment ce journal s'en tire. Il faut que vous nous racontiez ce que vous dites dans cette chronique, Philippe Lançon.
En fait, j'étais aux États-Unis depuis quelques mois déjà. J'enseignais à l'université de Duke, en Caroline du Nord, la littérature. Donc, je n'étais plus en position de journaliste. Mais, on avait fait des visites. Enfin, c'était l'année. On avait fait des visites avec quelques amis dans des journaux à un moment où la presse américaine connaissait une très, très grande crise que toute la presse a connue, la presse papier. Hein. Et donc, on se retrouvait dans le Washington Post, guidé par un journaliste extrêmement brillant, mais qui ne doutait absolument de rien. Vous savez, un de ces grands journalistes qui a dirigé le bureau Asie. Ça me faisait toujours rêver, le bureau Asie, etc., etc. Et effectivement, dans l'endroit des hommes du président, donc à la fois le film et le livre, donc l'endroit où et l'histoire où on a fait tomber Nixon, quoi, sur l'histoire du Watergate. Et il y avait encore les signes de tout ça. C'était vraiment... Donc, on visitait, en quelque sorte, un musée vivant de quelque chose qui était en train de disparaître, vous voyez. On le sentait, vraiment, j'étais pas le seul à le sentir. On était une dizaine, très frappante. D'autant plus, et je le raconte dans ce texte, que quelques jours après, on a visité un très bon journal de Caroline du Nord qui était en train, sous nos yeux, de liquider les journalistes. Donc voilà. Et c'était pas comme ici, si vous voulez. C'est clair qu'en fait, les gens ne protestaient pas. On est aux États-Unis. La grève, c'est quelque chose c'était quelque chose de peu imaginable pour eux. Et il y avait un sens. Je me souviens très bien d'avoir parlé avec des journalistes qui en faisaient partie. Et c'était comme ça. C'est-à-dire comme disait Naipaul, le grand écrivain, the world is what it is, le monde est ce qu'il est. Et dans ce monde, cette presse était en train d'être liquidée À quoi ça servait de protester, de faire grève, etc. Donc évidemment, pour un Français, un journaliste français comme moi, c'était tout à fait stupéfiant, parce qu'on se dit, mais pourquoi ils protestent pas, ils font grève, ils appellent au secours leurs lecteurs, enfin, ils réagissent, quoi. Non, ils ne fonctionnaient pas comme ça. Donc ça, pour moi, ça a été aussi une des découvertes que j'ai faites à l'époque aux États-Unis sur la presse.
Alors ce texte, il a 10 ans. Depuis lors, la presse papier est encore plus en triste situation, s'il en reste d'ailleurs quelque chose. Il y a eu la migration vers le numérique, mais il y a aussi cette sensation qu'une certaine culture, une culture fondée sur l'écrit, un écrit sur page papier, je vois, et votre exemplaire du bloc-notes de François Mauriac que vous avez devant vous, Philippe Lançon, on a l'impression que...
Épuisé, semble-t-il.
On a l'impression que cette culture-là, elle est en train de se décomposer. Qu'est-ce que vous en pensez?
De toute façon, ce qui est certain, c'est que si on prend par exemple simplement les quotidiens, des journaux, il y en a beaucoup moins qu'il n'y en a eu. Et que ceux qui restent, il y en a un qui je crois, enfin, pour ce qu'on en sait, marche très bien, qui est Le Monde. Mais et après, il y en a d'autres qui sont nés sur, comme Mediapart sur l'Internet. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que un organisme vivant, c'est un organisme où il y a énormément de titres qui vivent et qui donc permettent au lecteur d'aller de l'un à l'autre ou de voilà. Et ça, effectivement, c'est en train de disparaître au profit d'autres choses. Ça se recompose autrement. Je pense que c'est une période de recomposition qu'on voit à travers les réseaux sociaux et toutes ces choses-là. Et en fait, on ne sait absolument pas vers quoi on va. En résumé, actuellement, c'est le bordel.
Alors, il y a une chose qui va bien quand même, c'est la fiction aujourd'hui. La fiction se porte plutôt bien. Les romans, les œuvres de fiction sont aujourd'hui toujours aussi désirées par le public. Là aussi, vous qui êtes un grand lecteur, Philippe Lançon, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je ne sais pas, parce que je ne sais pas si ça va si bien que ça ou si mal, hein, je n'en sais rien. Moi, ce que je sais, c'est qu'à titre personnel, j'ai beaucoup plus de mal depuis l'attentat à lire de la fiction. Voilà, je suis beaucoup plus intéressé, mais je l'ai toujours été, par des textes où l'écrivain porte témoignage. Voilà, c'est des choses qui me...
Par exemple, le journal de Gide.
Oui, le journal de Gide, le bloc-notes de Mauriac, les grands textes écrits par les écrivains russes dans l'Union soviétique, qui ont subi des choses.
À qui pensez-vous ?
Récemment, j'ai écrit un papier dans un article dans Libération sur Anna Akhmatova, qui est une très grande poétesse russe. Et qui raconte, c'est un livre qui a été écrit par une amie à elle, et elle raconte leur conversation sur une trentaine d'années, donc de 38. Elles se sont connues en 38 à Leningrad pendant les purges staliniennes. Leur mari avait déjà été exécuté, et l'une ne savait même pas qu'il était exécuté. Et jusqu'à la mort de Akhmatova en 66, donc sous Brejnev. Et ce qu'on lit, pour moi, c'est vraiment l'essence de la littérature. C'est-à-dire, non seulement ça porte témoignage d'une situation extrême, mais en même temps, ça montre aussi à quel point, à ce moment-là, en l'occurrence la poésie, mais ça pourrait être d'autres, donne une force mentale extraordinaire qui permet à ces deux femmes, et à d'autres, de tenir. Donc là, on comprend bien très concrètement que la littérature, c'est pas de la théorie. Que dans les moments difficiles, ça devient de la pratique et ça devient un véritable élément de survie.
Les chroniques, c'est aussi une forme de conversation. D'ailleurs, le titre de votre chronique dans le jacuzzi des ondes, c'est Charb qui l'avait fixé dans le fait qu'il y a des chroniques de l'homme d'avant. C'est le titre que vous avez donné à ce recueil de chroniques. Il y a aussi le fait que le Charlie d'hier ne peut évidemment pas être comparé à celui d'aujourd'hui, Philippe Lançon.
Oui, si on continue de manière un peu sarcastique à la Charlie, la métaphore en stalinienne. Charlie, le 7 janvier, a vécu une sévère purge. Vous savez, Staline, quand il purgeait, quand il n'y a pas de démocratie, qu'est-ce qui se passe? On purge d'un coup une génération, donc on la liquide, et puis on en met une autre à la place. Là, c'est les événements. On a été littéralement purgé par le sang. Et donc, effectivement, la vie est quand même plus forte que tout. C'est-à-dire des jeunes, des nouveaux sont arrivés, en particulier beaucoup de nouveaux dessinateurs qui ont du talent et qui se sont... qui s'installent progressivement dans ces pages et les font vivre. Donc voilà ce qui s'est passé. Et Charlie, je ne sais pas si c'est un journal de losers, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un journal de gens qui connaissent le prix de la vie et qui se bat pour vivre quotidiennement, même s'il continue à être énormément attaqué.
C'est aussi assez étrange de se dire que des journalistes peuvent légitimement avoir peur en France, Philippe Lançon.
Ah oui, mais oui, c'est curieux, mais c'est comme ça. Enfin, c'est là aussi le monde est ce qu'il est. C'est-à-dire les menaces contre Charlie, que je sache, elles continuent à lui arriver, à lui parvenir.
Et là aussi, les questions. Vous n'aimiez pas cette expression tout à l'heure, mais la différence entre le premier degré et les autres degrés n'est pas toujours comprise, je crois.
Ah bah, c'est-à-dire que le. Alors là, je crois que mes chroniques en sont aussi le symptôme. Mais ce qui caractérise les caricatures en particulier. De dessin, c'est la multiplication des degrés, puisqu'elle confronte toujours un plan à un autre. C'est-à-dire, par exemple, là, Charlie a été attaqué la semaine dernière, je crois, pour une caricature à propos des soldats morts au Mali. Et on a dit, ils attaquent les soldats morts au Mali, ils se moquent des soldats, des pauvres morts, mais pas du tout. Parce que ils confrontaient ces morts à la campagne de publicité de recrutement de l'armée.
C'est donc, le dessin signé Biche.
Voilà, c'est un signé Biche, et ça, c'est l'essence de la caricature. On peut ne pas aimer ça, bien sûr, et ne pas le lire et trouver ça, mais la caricature, elle confronte toujours des plans différents, et donc, effectivement, elle est toujours naturellement au second degré. Voilà. Il semblerait qu'on vive dans un monde où beaucoup de gens ne comprennent pas ou ne veulent pas comprendre le second degré.
Philippe Lançon, Chronique de l'homme d'avant, c'est donc ce recueil de chroniques qui est publié aux éditions Les Échappées. Alors je vous présente les trois chroniqueurs, parce que ici il y a trois chroniqueurs qui chaque jour nous donnent leur vision du monde. Hervé Gardette, Mathilde Serrel et Aurélien Bélanger, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Hervé, de quoi allez-vous nous parler ?
De chansons sans carbone.
Mathilde Serrel.
De police anachronique.
Et enfin Aurélien Bélanger.
Tête ronde et lunettes carrées quand le philosophe est aussi visagiste.
Allez, dans quelques instants, vous restez avec nous, Philippe Lançon.
France Culture, l'esprit d'ouverture. Chaque samedi sur France Culture, entrons dans une œuvre, une vie, Christine Bernard.
Lorsqu'elle chantait, elle faisait un tel effet que des gens explosaient en larmes, bouleversés par sa voix. Elle, c'est Amy Winehouse. Son timbre de voix particulier, son look des années 50, lui confère le statut d'icône musicale des années 2000. Une voix de jazz absolument incomparable, rare et moderne, mais néanmoins puissamment nostalgique.
Il était une voix, Amy Winehouse, une vie, une œuvre, ce samedi à 15h et sur franceculture.fr.
8h45 sur France Culture, Hervé Gardette, votre transition, le monde de la musique aime les grandes causes, le réchauffement climatique ne pouvait pas y échapper, et nous non plus.
Eh oui, souvenez-vous Guillaume, nous dansions...
C'est la mauvaise nouvelle Mathilde Terrel.
Souvenez-vous Guillaume, nous dansions là-dessus en 1987.
Non, on ne dansait pas, non.
Moi, voilà ce qui s'appelle un début totalement raté de chronique. Essayons de rattraper le coup. Beds Are Burning, vous reconnaissez. Midnight Oil, chanson consacrée à la restitution des terres aux aborigènes. Tube mondial, porteur d'un message écologique fort. Le chanteur du groupe Peter Garrett deviendra par la suite député, puis ministre dans son pays, l'Australie. Le monde de la musique s'intéresse depuis longtemps au sort de la planète, avec plus ou moins de réussite. Les meilleures intentions ne produisant pas toujours les meilleures chansons. Pour un petit chef-d'œuvre de subtilité comme « Je suis un homme » de Zazie, on compte aussi pas mal d'artillerie lourde. Écoutons par exemple, attention, rime riche, le premier couplet de « La terre meurt » de Charles Aznavour. Les océans sont des poubelles, les fonds de terre sont souillés, les Tchernobyls en ribambelle voient naître des fœtus mordés. Alors cela dit, comme le font justement remarquer les chanteurs et musiciens signataires de la Tribune publiée dans Le Monde il y a une semaine, ce n'est pas par de belles chansons ou de belles paroles que nous éviterons le naufrage. Vincent Delerme, Calogero, Mathieu Chédid, Yaël Naïm, Thomas Dutronc, Soprano, ils sont une ribambelle, comme dirait Aznavour, à de
demander à leurs fans de modifier leur façon de vivre, à accumuler les petits gestes pour sauver la planète. Lors des dernières victoires de la musique, le groupe Chaka Ponk, lui aussi signataire, avait ouvert la brèche.
Il y a des gens formidables, des gens magnifiques qui ont dressé des listes de comportements. Ces gens formidables, ce sont des professionnels de la fin du monde. Et si nous adoptions tous ces comportements au quotidien et que nous les partagions, nous pourrions, une bonne fois pour toutes, en finir avec « The End of the World ».
Ah, « The End of the World », comme quoi les chanteurs, c'est fait pour chanter. Le groupe Coldplay vient de pousser un peu plus loin la logique en décidant de reporter la tournée qui devait accompagner la sortie de son dernier album. Le chanteur Chris Martin s'en explique à la BBC. « Nous allons prendre notre temps pour que notre tournée soit respectueuse de l'environnement. » Alors passons sur les méchantes critiques qui disent que Coldplay aurait surtout dû prendre son temps avant de sortir un nouvel album. L'objectif, c'est la neutralité carbone, véritable gageure pour un groupe habitué à faire la tournée des stades. Il y a 10 ans, Radiohead avait ouvert la voie, démontrant qu'on peut être en avance sur son temps, aussi bien musicalement que politiquement. Le groupe britannique mesure l'impact écologique de ses concerts et tente de le limiter en utilisant des éclairages plus économes, des matériaux recyclés et en privilégiant des lieux facilement accessibles en transport en commun ou à vélo. Des tournées bas carbone et éco-responsables, c'est d'ailleurs le projet français en cours de financement de Green Your Touring, une boîte à outils en open source pour aider les musiciens et les tourneurs à réduire leur impact carbone. Démarche essentielle pour une industrie qui a trouvé dans la musique live les conditions de sa survie. Alors depuis que je tiens cette chronique, j'ai reçu plusieurs messages d'auditeurs me signalant des projets musicaux autour de l'environnement. Vogel, une sympathique rengaine à l'accordéon composée par des grenoblois pour dénoncer l'immobilisme face à l'urgence climatique. The House We Live In, la maison où nous vivons, un projet ambitieux qui met en musique et en images sur scène les propos des grandes figures de l'écologie mondiale, projet qui fait actuellement l'objet d'une campagne de financement participatif. Mais parce que quelqu'un me faisait remarquer hier dans les couloirs de France Culture que les chanteurs écolos étaient tristes comme un jour sans métro, prouvons-lui le contraire avec cette chanson dans laquelle vous vous reconnaîtrait peut-être Guillaume.
Il ne triait les déchets qu'à moitié, et arrosait le gazon sans se poser de questions. Était contre le nucléaire, mais zappait d'éteindre les lumières. Était anti-OGM, mais on en mangeait quand même. Il disait les marées noires, y en a marre, mais ne voulait pas savoir ce qu'il mettait dans le réservoir. Mon père m'avait dit pourtant, j'arrête le Roundup au printemps, je vais voter pour les Verts, m'a dit à Noël, ma mère.
Dream Rich, ça plaît beaucoup à Mathilde Serrel. Hein.
Ça s'appelle Les Goguettes. Voilà, Les Goguettes. Vous aurez reconnu l'air de Marie-Paul Bell, Je ne suis pas parisienne. Happy Collapse, Les Goguettes. Tous les liens et tous les artistes et les morceaux que j'ai cités sont évidemment en lien sur la page de la chronique. Guillaume,
une réaction, Philippe Lanson.
Ben, c'est marrant parce que quand j'ai relu mes chroniques là pour mon livre, je me suis aperçu que par exemple en 2005, j'en avais écrit une qui s'appelle La fin des avions. Et une autre, un an plus tard, qui concernait la disparition d'un lac au Chili, pour des raisons. Et en fait, il y en avait d'autres aussi qui n'ont pas été forcément retenues. Et évidemment, comme je ne suis pas spécialement ni devin, ni ça, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a déjà presque 15 ans, c'était dans l'air. Puisque le chroniqueur, c'est ça qu'il fait, il capte l'air du temps. Et donc, on s'aperçoit que tout ce qu'on entend là maintenant, qui devient effectivement, comme vous le disiez bien, montriez bien des... finalement des slogans et des manières de se raccrocher au train pour tout un tas de raisons compréhensibles. Ces choses-là, on les savait en fait depuis déjà 15, 20 et probablement beaucoup plus de temps.
Le thème de la chronique de Mathilde Serrel, vous y avez vous aussi consacré des chroniques, Philippe Lanson. Mathilde, votre théorie, elle porte sur la politisation de la culture et ce qu'elle nous fait.
Oui, dans les années 60, tout était politique, de la façon de filmer à celle d'aller au théâtre ou même de commander une bière. Et puis après des décennies de vie culturelle marquées parfois par l'engagement, mais libérées d'une lecture systématiquement politique, nous y voilà replongés. Je ne dresserai pas ici la liste des cas qui viennent étayer ce sentiment. Il vous suffit de vous tenir, même passivement informé, pour constater que les controverses qui touchent les œuvres de l'esprit et de l'imagination sont omniprésentes. Mais ma théorie, c'est que soustraire les œuvres à ce nouveau regard n'est pas une solution. Que cela nous plaise ou non, cette époque qui est la nôtre ne fera pas autrement. Bien sûr, quand l'histoire est passée par là et qu'elle a trié, c'est plus simple. Comment fait-on dans un présent qui réouvre, lui, toutes les alternatives, y compris en convoquant sans cesse le passé à la barre. Spontanément, je n'ai pas envie de me poser des questions telles que « faut-il arrêter de regarder Gauguin ?» pour reprendre un édito du New York Times à propos de l'exposition du peintre post-impressionniste à Londres. Ou encore « faut-il cesser d'écouter Michael Jackson ?» Ou encore « faut-il mettre des avertissements avant les classiques de Disney qui peuvent contenir, je cite, « des représentations culturelles dépassées ?» Il y a certes un anachronisme constant aujourd'hui qui regarde des œuvres contextuelles depuis le point d'évolution que nous traversons et leur demande des comptes. Mais c'est bien parce que la forme du temps, qui n'est plus linéaire dans sa perception, a changé, que cette colloque passé présent opère. Peut-on dès lors se dérober à cette question de la mise à jour ? Même si de toute évidence, dans la précipitation et la fureur, elle semble impossible. D'autant que la question est très mal posée à partir du moment où elle consiste à se demander s'il faut évacuer ces œuvres de notre regard, comme si la suppression était une réponse. Pour autant, on aurait tort de refuser par principe toute réévaluation anachronique, tant il y a à ouvrir, à déplier, à complexifier, à renseigner, en laissant ensuite à chaque lecteur, regardeur, spectateur, la liberté de se faire son avis. Je sais, c'est inconfortable, c'est fatigant, voire inquiétant si de ces débats devaient surgir de nouvelles formes aseptisées. Pourtant, j'ai aussi envie de vivre ces interrogations comme une chance de repenser, pourquoi pas contre soi, et de voir se dessiner de nouveaux équilibres. Quant à la politisation des œuvres du présent créatif et la politisation de gré ou de force de leurs auteurs, parfois au travers d'événements passés, voire passés sous silence, chacun peut la refuser. Comme l'ancien critique d'art du Guardian, Valdemar Januszak, qui rappelle notamment qu'on ne se confronte pas à l'art pour devenir de meilleurs citoyens. Mais ce qui devient soudain audible ou visible dans l'espace public ouvre une discussion conflictuelle, peu rhétorique souvent, excessive, littérale et manichéenne certainement. Pourtant, celle-ci fait de la culture à nouveau un espace où se repensent les enjeux de pouvoir. On peut s'en méfier ou s'en extraire, rien n'y changera, autant se débrouiller le plus sincèrement avec.
Merci Mathilde Serrel. Une réaction, Philippe Lançon. Je songeais notamment à cette chronique que vous consacrez dans Chronique de l'homme d'avant à Polanski, avant l'affaire qui le concerne aujourd'hui, bien entendu, puisque ce sont des chroniques qui ont une dizaine d'années.
Oui, ben, je vais juste, effectivement, comme vous le disiez bien, c'est le problème, c'est difficile pour l'individu qui se retrouve confronté à tout un tas d'injonctions politiques. D'exister et de comprendre et de vivre les œuvres le plus naturellement et spontanément possible pour aller vers plus de liberté en somme. Et donc je voudrais juste vous citer une phrase de Mauriac justement hors contexte mais qui s'y raccroche assez bien. Nous devons accepter la vérité telle qu'elle est, vue du dehors, couverte de mouches, mais à condition de la redécouvrir au-dedans de nous, là où les mouches ne pénètrent pas. Et donc, l'art dont vous parliez, peut-être que c'est précisément la possibilité qui nous est donnée de retourner vers l'intérieur, là où les mouches ne pénètrent pas.
Et moi, je vais vous lire du Lançon. Pour Charlotte, Polanski est deux fois criminel, comme violeur d'une mineure et comme fuyard. La seconde cause n'est pas moins pire que la première. Il faut affronter devant les juges, comme devant sa conscience, les conséquences de ses actes. Charlotte est libérale, comme on dit ici. C'est une forme de vertu. On est en Amérique. Et c'est une chronique du 31 mars 2010, Philippe Lançon. (Rire) 8h55, la conclusion d'Aurélien Bélanger.
J'entretiens un rapport paranoïaque à Michel Onfray. À la sortie de mon premier roman, Invité un peu partout, j'avais découvert en quelques semaines que j'adorais parler en public. Je me tenais jusque-là pour une personne excessivement timide. Mes premières prises de parole en public avaient en effet été catastrophiques. Ainsi de la fois où dans la librairie où je travaillais, et alors que Charles Dantzig avait expliqué en esthète que le beau et le vrai étaient incommensurables, c'était insupportable pour l'étudiant en métaphysique, pour le petit platonicien que j'étais alors, j'avais vivement protesté depuis la caisse où je me tenais en retrait, et je me vois encore bafouiller et rougir de mon audace juvénile. Je devais, quelques années plus tard, intervenir sur Europe 1 pour évoquer Welbeck, à qui je venais de consacrer mon premier livre. Je n'avais jamais imaginé, attendant mon intervention, qu'il soit possible de boire autant d'eau et d'avoir en même temps la bouche aussi sèche. Je ne me rappelle encore que de l'atroce sensation et n'ai aucun souvenir de ce que j'avais bien pu réussir à articuler. Je me souviendrai en revanche toujours du visage de cette femme, la mère d'un de mes camarades de collège, la bouche paralysée par le trac à une représentation amateur d'une opérette d'Offenbach, car j'ai longtemps cru que telle serait Un jour, mon destin, et j'admirais, devant l'heure de vérité, s'était articulé de ministres capables de répondre, avec une précision d'ébéniste, à des questions à tiroir sur le chômage de masse. La publication de mon premier roman a levé cette malédiction, au point qu'à ma 20e intervention publique, je n'étais pas certain de ne pas me trouver, comme ma confrère Aurélie Filippetti, directement ministrable. J'avais découvert que j'adorais, plus que tout, m'exprimer en public et donner mon avis sur tout, en commençant prudemment par le domaine abordé pour mieux finir par m'exprimer, du ton de la confidence, sur le destin de l'univers. Vers lui-même. À chaque fois que j'ouvrais la bouche, et même quand j'étais seul sur scène, surtout si j'étais seul, c'était tout un talk show qui commençait pour moi. Le goût de la parole publique, c'est le châtiment merveilleusement pervers que notre société réserve parfois aux grands timides. Et c'est ainsi que j'ai rencontré Michel Onfray, mon animal totem. Je le connaissais un peu, de loin en loin. Je l'avais ainsi découvert sur cette antenne, dans les années 90, à l'époque où il tentait de réhabiliter Diogène et le cynisme. Et je m'étais étonné que sur une heure d'émission, il avait passé un bon tiers à se plaindre qu'on ne l'invite jamais. Rien n'avait changé sur ce point quand nous nous sommes rencontrés sur la scène d'un théâtre de Bordeaux, 20 ans plus tard, en compagnie de tout un panel d'intellectuels. Forcé enfin d'admettre qu'il avait finalement plutôt bien réussi, ancien libraire, je pouvais l'attester, j'avais vendu par exemple son livre Contre Freud par centaines à des psychanalystes courroucés, il avait imaginé une improbable stratégie pour râler encore, se rajeunissant de 30 ans et tentant, c'était la scénette qu'il improvisait devant nous, de revendre Le Ventre des Philosophes, son premier livre, à son éditeur, lequel immanquablement refusait. La chance qu'il avait su saisir en 1989 s'était ainsi évanouie. En 2016, CQFD, l'édition était devenue méchante, libérale, maastrichtienne, et commettait l'erreur, dans ce petit précis d'histoire intellectuelle contrefactuelle, de le décourager au berceau, lui, l'un des plus gros vendeurs de livres de philosophie de tous les temps, le Bruce Springsteen de la philosophie française. C'était quand même un peu délirant, même Rousseau aurait été choqué, je crois, par ce récit paranoïaque. Et pourtant, j'ai pour Michel Onfray un respect authentique. Ces 30 ou 40 000 signes qu'il se targue d'écrire tous les jours, ces livres qu'il dévore, même si c'est pour mieux dévorer leur auteur, forcément coupable à ses yeux, s'il a connu un temps la gloire médiatique, cela m'impressionne. Le voir en loge, sinon en toge, dans un documentaire, vider un litre et demi de cristalline en relisant ses notes avant de monter sur scène, cela m'a ému. Mon Michel Onfray intérieur existe et il se réveille à chaque fois que je parle en public depuis ce jour prophétique où, dans une librairie de Montmartre, presque à la verticale infinie du puits de la station Abbesse, une pitié m'annonça, alors que je venais d'exposer l'intrigue métaphysique de mon premier roman, que je lui avais fait penser au jeune Michel Onfray.
Merci beaucoup Aurélien Bélanger. Rien sur Michel Onfray dans le Philippe Lançon que je tiens entre les mains, chronique de l'homme d'avant.
Non mais figurez-vous que je l'ai interviewé, très jeune journaliste, il était venu chez moi avec André Comte-Sponville pour parler des cyniques, les cyniques grecs. C'était quasiment son premier livre ou un de ses premiers livres. Et je venais de déménager, j'habitais dans une rue où il y avait des prostituées partout. Et régulièrement, donc on parlait de philosophie sur une table avec deux tréteaux parce qu'il n'y avait rien dans l'appartement. Et ils allaient à la fenêtre l'un et l'autre pour regarder le spectacle qui était beaucoup plus dans la rue qu'à l'intérieur de l'appartement. Voilà.
Chronique de l'homme d'avant, avec des merveilleuses chroniques de Philippe Lançon. C'est aux éditions Les Échappées. Merci Philippe Lançon d'avoir été en notre compagnie ce matin. Merci à toute l'équipe des matins. Pauline Chanu, Elodie Piel, Mayouen Guizhou, Léa Capuano, Louison Carouet, David Jacoboviaz, Nicolas Paumé, M. Le Chili et Cindy Le Grumelec.